Bonjour Claire.
Bonjour Fred.
Bonjour Dominique.
Bonjour.
Alors, où c'est qu'on est ici?
Alors, on est à Dieulefit. Dieulefit, c'est dans la Drôme. C'est un petit village très agréable et très vivant, dans les collines et au soleil.
Alors, on m'a dit qu'ici, il y avait un magnifique projet de lieu de vie sur lequel vous travaillez depuis 7 ans.
Depuis 7 ans, oui. C'est Ecoravi.
Et qu'est-ce qui vous est arrivé pendant ces 7 ans?
Alors, pendant ces 7 ans, il nous est arrivé plein d'aventures. C'est une extraordinaire aventure humaine et qui est en train d'aboutir. Alors, ça, c'est le côté merveilleux de l'affaire.
Alors, qu'est-ce qui aboutit avant de rentrer un petit peu dans l'histoire? Qu'est-ce qui aboutit aujourd'hui? C'est quoi vous êtes en train de faire?
On est en train de faire les voies d'accès sur un magnifique terrain qui est plein sud et à 10 minutes du centre de la ville. Et bientôt, des terrassements vont être faits, puis un bâtiment va surgir en terre et paille.
Voilà.
Et il y en a certains qui disent qu'à la Noël, on pourrait y être. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette vision, mais on peut rêver.
Alors, si j'ai bien compris, c'est un bâtiment parmi trois au total, c'est ça que vous allez faire?
Ouais.
Vous pouvez nous dire un petit peu comment seront ces bâtiments, comment vous les avez conçus?
Alors, c'est trois bâtiments, en fait, identiques dans les dimensions, d'environ 10 par 20, et par 10 de haut, plus une maison commune, de 100 mètres carrés au sol sur deux niveaux. Et les bâtiments ont trois niveaux, donc chaque surface de plancher fait environ 170 mètres carrés. Et la construction, c'est du préfabriqué bois paille, qui ce sont des modules fabriqués dans des CAT, des ESAT, donc qui seront livrés par des camions grues. Et l'un des aspects étonnants de ce type de construction, c'est que un bâtiment est construit en 3-4 jours. Il est élevé en 3-4 jours.
Hors d'eau, hors d'air.
Hors d'air si on a commandé... le toit chez eux, quoi, 4 jours.
D'accord, 4 jours avec le toit.
Ouais.
D'accord, pour des habitations qu'ils vont faire à peu près?
Eh bien, chaque plancher faisant 170 mètres carrés, on met 3 appartements ou 2 appartements par niveau. Au rez-de-chaussée, tout en bas, on ne met qu'un appartement de 100 mètres carrés parce que le terrain est un peu en pente et donc il y a des locaux non chauffés qui sont mitoyens au rez-de-chaussée, aveugles, semi-enterrés, quoi.
Donc du coup, le projet Ecoravi, c'est combien de foyers, d'adultes, d'enfants?
Oui, alors actuellement, c'est 19 adultes et 10 enfants. Comme nous sommes sur un terrain urbain, nous avons été obligés de mettre 18 logements. On ne voulait pas être aussi nombreux. C'est pour ça qu'on se retrouve avec 3 gros bâtiments. Au départ, on voulait quelque chose de plus simple. Mais la densité urbaine oblige, donc c'est comme ça et c'est très bien. Donc il nous reste encore, on attend encore 4 ou 5 personnes qui pourraient nous rejoindre pour habiter les derniers logements qui sont encore disponibles.
Alors parlez-moi un petit peu aussi de la façon dont vous avez conçu l'accès à la propriété d'Ecoravi. Comment on accède à la propriété hein? Avec quoi vie, comment c'est mis en place?
Alors qu'il n'y a pas d'accès à la propriété.
C'est pas vrai.
Allons.
Mais enfin.
Oui. Et donc, on se complique un peu la vie, mais on aime ça parce que l'objectif est magnifique. Donc, en fait, on va être propriétaire collectivement grâce à une part sociale de 100 euros d'une société, pour l'instant une SCI, société. Civile immobilière, mais qu'on va transformer en coopérative d'ici la fin de l'année.
Coopérative, donc société coopérative d'intérêt collectif, c'est ça?
Alors on hésite sur la société coopérative d'intérêt collectif ou la coopérative d'habitants.
D'accord.
Pour l'instant, c'est pas tranché. On évalue les deux systèmes pour servir au mieux les objectifs qu'on a listés avec le groupe. Et ça va se faire avant la fin de l'année. Du coup, on n'est pas propriétaire individuel. Et c'est la société qui est propriétaire avec comme objectif de devenir réellement non dépendante de ses associés, de ses prêteurs extérieurs aussi, d'ici quelques décennies, grâce au fait que chacun de nous va payer un loyer pour autonomiser la personne morale que représente cette société, qui donc, d'ici, on évalue à une centaine d'années, un petit peu moins de 100 ans, elle sera entièrement dégagée de toute dette, et du coup, nos successeurs qui géreront le lieu pourront accepter, adouber des personnes en fonction uniquement, non pas de leur capital, donc, mais de leur, d'abord, capacité à payer, effectivement, mensuellement quelque chose, qui sera défini entre eux, et puis sans apport de capital aucun, sauf ce qui pourrait être décidé, 15-20 000 euros peut-être, pour les réfections, pour l'avenir, etc. Donc voilà, on sort du champ de la propriété individuelle, et ce qui nous complique la vie pour boucler le budget, puisque les banques ne nous suivent pas dans ces conditions-là, pour l'instant en tout cas en SCI, elles ne comprennent pas, elles ont peur pour les garanties, et du coup on fait appel à des prêteurs solidaires extérieurs, donc non habitants, et pour l'instant on a récolté un peu plus de 300 000 euros par 9 personnes, et on continue donc de solliciter à droite à gauche, parce qu'à moins que les derniers habitants amènent chacun 200 ou 300 000 euros, il nous manque encore quelques centaines de milliers d'euros pour boucler le budget.
C'est pour ça que vous avez commencé par une première tranche et vous allez faire ensuite une deuxième tranche, puis éventuellement une troisième tranche, c'est ça ?
Voilà, on a de quoi faire l'ensemble des voiries, réseaux, distribution, l'ensemble des fondations, mais un seul bâtiment pour l'instant. Il nous manque 100 000 euros pour faire le deuxième. Voilà, donc on va sans doute engager les deux premiers quand même.
Alors, peut-être on peut descendre un petit peu plus en profondeur, parce que le mécanisme est très intéressant, sur qu'est-ce que chaque habitant paye tous les mois. Ouais. Pour que vous puissiez équilibrer votre budget. Comment ça fonctionne ?
Ok. Alors déjà, au niveau de la solidarité, puisque là, on arrive sur le terrain de la solidarité, il y a deux types de solidarité qui ont été travaillées dans notre projet. C'est la solidarité en capital. J'apporte combien pour avoir un logement ? Certains adultes apportent 5 000 euros seulement, et d'autres apportent 200, 220, 230 000 euros chacun. Donc, cette solidarité ne suffisant pas, c'est pour ça qu'on a recours en capital aux banques qui ne veulent pas, donc, mais sinon des prêteurs extérieurs. En ce qui concerne les mensualités à payer une fois qu'on sera dans les bâtiments, également là on a travaillé la question de la solidarité, puisque certains d'entre nous gagnent plus d'argent que d'autres mensuellement. Certains plus âgés n'ont pas besoin de capitaliser, hein, ils n'ont pas besoin d'élever encore leurs enfants avec les études, etc. Donc on va, par adulte, payer environ 120-130 euros de charges qui inclut tout, par adulte. On va payer, on a voté aussi un loyer, donc c'est des fonds perdus pour nous-mêmes, mais offerts donc à la structure, comme un loyer, au lieu de le donner à un propriétaire lambda, on le donne à la structure, de 150 euros, mais cette fois-ci par appartement, quelle que soit la dimension, 100 mètres ou 50 mètres carrés, présence d'enfants ou non, 150 euros de loyer, plus donc les 130 euros, mettons, de charges. Et au-dessus de ça, on va une troisième couche de la mensualité constituée d'un volet épargne qui va donc dans notre compte courant d'associés. Chacun de nous, au vu de l'apport qu'on a, on a un compte courant qu'on va alimenter mensuellement selon donc notre reste à vivre. C'est calculé par l'INSEE. S'il est vert, eh bien nous payons 300 euros. S'il est orange, nous payons 150 euros. S'il est rouge, encore peut-être moins. On va voir en fonction du moment, de la période. Du coup, ceux qui payent moins devront être compensés par ceux qui, malgré les 300 euros par tête, resteront dans le vert. Donc ceux-là verront leur mensualité épargne monter. Hein, donc ici, on a de la solidarité, mais c'est une solidarité relative, puisque ça va quand même dans le compte courant qu'on récupère quand on s'en va, mais ça permet de rembourser les prêteurs non habitants d'une part, mais aussi peut-être ceux qui partiraient parce qu'ils se séparent, parce qu'ils ont envie de déménager, parce qu'ils meurent, il y aura des successions à envisager, etc. Donc voilà, ce sandwich là de trois niveaux permet d'assumer les charges au quotidien et l'avenir également au niveau des remboursements, comme si on remboursait donc une banque, puisqu'on a un emprunt finalement.
Belle mécanique de financement et de solidarité. Mmh. Tu disais que vous avez pris ces décisions tous ensemble. Justement, quelles sont les méthodes de décision que vous avez mis en place au sein des Coravis?
Oui, alors ça, on a fait un travail très important dans notre groupe, parce que c'est l'humain qui est au centre du groupe. Et quand on est 15 à 20 à prendre une décision, c'est pas du tout évident. Et donc, depuis quelques temps, enfin, depuis le début presque du projet, toutes les années, il y a une formation qui est obligatoire à la communication non violente d'abord. On a fait trois stages comme ça de communication non violente. Ensuite, on a travaillé avec l'université du Nou qui nous a donné les décisions. Donc les décisions sont prises au consentement selon toute une série de... D'étapes, merci. Une série d'étapes qui nous amènent à tenir compte de toutes les objections qui peuvent se poser. Et on ne prend pas une décision sans que toutes les objections ne soient levées. Donc une décision prise est vraiment... portée par le groupe, c'est l'intelligence collective. Si bien que quand il y a une objection, parfois ça nous fait un peu râler parce que ça peut prendre du temps, mais en même temps c'est un cadeau. C'est un cadeau pour bonifier les propositions.
Et comment vous gérez vos conflits au sein du groupe? S'il y a des conflits, bien sûr.
Oui, il y a quelques conflits.
Alors les conflits, l'Université du Nou nous a donné aussi un processus de régulation des conflits, mais avec une possibilité d'exclusion. Et on a été amené à l'utiliser parce que le groupe, on a senti la nécessité. Ça a été porté par une personne individuelle, puisque c'est comme ça que se passe le processus de l'Université du Nou. Et on est les premiers à avoir été au bout, paraît-il, c'est-à-dire qu'on a exclu réellement quelqu'un du groupe parce qu'en fait, il était absent finalement. Je pense qu'il aurait été présent, peut-être que les choses se seraient bien passées, mais par trois fois, nous l'avons invité à venir participer à ce processus. Et moi qui ai vécu ce processus et préparé ce processus, vraiment, moi j'ai senti énormément d'amour dans ce processus, à tel point que je comprends que l'Université du Nou nous ait dit que jamais le processus pouvant aller jusqu'à l'exclusion avait été jusqu'à l'exclusion. La personne partant avant d'aller au bout, ou la personne ayant demandé l'exclusion, lève sa demande. Et c'est vraiment un processus magnifique de résolution de conflits. Donc,
tout est basé sur la restauration du lien, en fait, et non pas sur l'exclusion elle-même.
Et la reconnaissance des besoins, ouais, et leur expression libre, simple, et déposée au milieu de tout le monde, avec une écoute magnifique. Quand le silence est là, c'est...
On sent dans votre groupe, on a mangé ensemble hier soir, c'était vraiment très très sympa, et on sent l'importance dans votre groupe de la notion de développement personnel, de la communication non violente. Qu'est-ce qui vous a amené à cette sensibilité l'un et l'autre, et comment c'est vécu dans le groupe?
Alors ce qui nous a amené à ça, c'est qu'il y avait des conflits qui étaient importants. On a essayé de faire des médiations entre deux personnes qui avaient de forts caractères, de fortes personnalités. On s'est un peu épuisé. On n'a pas réussi à le gérer. On s'est dit, il faut vraiment que chacun, on s'imprègne des principes de la communication non violente pour pouvoir dépasser ça. Et lors du troisième week-end de communication non violente, d'abord, peu de temps avant, il y a des gens qui ont commencé à me téléphoner en me disant « Je viens pas parce que j'ai mes petits-enfants, je viens pas parce que... » Et alors là, j'ai dit « Si tout le monde n'est pas là, moi j'arrête Ecoravie, ça n'a pas de sens pour moi si chacun ne veut pas se remettre en question. Tous ceux qui viennent ici doivent accepter ça, sinon ce groupe ne peut pas tenir. »
Alors, 7 ans, c'est long. Enfin, ça peut paraître long de l'extérieur. Qu'est-ce qui a fait que le projet ait mis 7 ans pour voir le jour? Quelles ont été les grandes étapes, et même plus particulièrement les grands obstacles finalement que vous avez rencontrés dans ce projet qui ont fait que vous soyez obligé de patienter pendant 7 ans, parce que c'est long?
Alors au début, on était un peu des doux rêveurs. Chacun rêvait sa petite maison, des passages écologiques pour les animaux, enfin c'est des fleurs partout... des petits bassins d'eau, enfin, c'était magnifique, c'était superbe. Et puis, petit à petit, il y a des gens qui sont venus et qui sont venus avec leur cerveau gauche et qui ont commencé à sentir la nécessité d'une organisation. Donc, dans un premier temps, on s'est mis en association. Et c'est là qu'on a trouvé notre, à ce moment-là, notre nom, écologique coopérateur pour un habitat vivant et solidaire. Ça fait Ecoravi, tout est pratiquement dans le sigle. Et c'est quoi la question encore ?
Et les grandes étapes.
Les grandes étapes, oui. Alors, les grandes étapes, c'est quand on a déposé le permis de construire, on nous l'a refusé parce qu'il n'y avait pas de voie d'accès sur les terrains qui étaient enclavés. Alors, on a cherché à acheter, mais personne ne voulait nous vendre. On a été obligé d'acheter un domaine pour pouvoir avoir ces voies d'accès. Et là, on s'est constitué en SCI. Pour pouvoir acheter, on était obligé d'être en SCI. Ensuite, le permis de construire, on a réussi à le faire avec la mairie. Enfin, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait faire tout un plan d'ensemble sur 3 hectares alors que nous n'avons que 8500 mètres carrés. Et là, les architectes des bâtiments de France ont dit « Ah ben non, ça ne va pas votre projet, ça ne va pas. Le Grenelle dit que il faut que vous soyez comme les autres, dans une rue, vous faites une ruelle parallèle à la ruelle. » Alors ça n'allait pas du tout, on a dû monter jusqu'au ministère, à la préfecture, pour dire « Mais c'est pas possible ça, vous êtes en train de défendre l'habitat groupé et on se trouve devant un obstacle comme ça ». Et bon, ben, ça a fonctionné, on a réussi à les
acheter. Par contre, ça a pris un certain temps. Ah, ben, voilà. Combien c'est... 2 ans, c'est ça?
Oui, oui, quelque chose comme 2 ans. Oui. Voilà, et qu'est-ce qu'il y avait encore comme difficulté? Des difficultés internes à un groupe, parfois aussi, des gens qui font ralentir le processus parce qu'ils ne sont pas d'accord avec...
Dès le début, il y avait quand même la difficulté de ces 2 terrains, parce que c'est une association même de 3 terrains, 3 propriétaires différents. Donc, accepter qu'ils vendent, c'est compliqué, ils ne veulent pas forcément. Ensuite, ce terrain étant enclavé, elle vous a raconté que voilà, c'était très compliqué. Il a fallu parcelliser un bout de terrain pour finir l'accès, donc un 4e achat. Enfin, plus compliqué, c'est difficile de l'imaginer, mais peu importe. Parce que finalement, le groupe a changé, parce que la durée fait que les gens se découragent.
Certains sont partis.
Il y a des conflits. Donc ça aussi, ça nous a pris du temps hein, de gérer tout ça, pour garder tout le monde le plus possible ensemble. Et on s'est fatigué un petit peu. C'est vrai que dans la durée, c'est beaucoup plus compliqué. J'espère que maintenant, voilà, on va vraiment aller plus rapidement.
Ce qui a été un peu difficile aussi, c'est le contact avec les architectes. Les architectes ont voulu faire ce qu'on appelle une signature architecturale, c'est-à-dire quelque chose, c'était en forme de vague, mais ils ne nous donnaient jamais le budget. Et quand on a eu le budget, ils explosaient le budget. Et nous, ce n'était pas possible, on ne pouvait pas, ce n'était pas possible. Donc, il a fallu chercher un assistant en maîtrise d'ouvrage, qui nous aide à retrouver la relation avec les architectes, parce que c'était fichu, on ne pouvait plus communiquer. Et on est tombé sur quelqu'un d'extraordinaire, qui est amoureux de notre projet, qui nous pousse, qui nous aide, on n'en revient pas de tout ce qu'il fait pour nous. Et il vient avec ses beaux-parents quand on fait la fête. Il veut montrer à tout le monde que c'est un projet extraordinaire. Je crois qu'il n'a jamais vu un projet qui soit si cohérent, où des gens mettent leurs valeurs, sont en cohérence avec leurs valeurs. Voilà.
Et si vous aviez à recommencer le projet, quels sont les éléments que vous avez appris aujourd'hui que vous auriez mis en œuvre dès le départ, si vous aviez à recommencer? Qu'est-ce que vous auriez changé dans l'approche qui vous auriez fait gagner du temps?
C'est très difficile. Moi, je sais que j'y suis depuis près de 4 ans, 3 ans et demi passés. Personnellement, je ne vois pas, de mon point de vue, donc, ce que l'on aurait pu éviter, en fait. C'est ça la question. Je crois que les aléas qu'on a traversés sont la signature de la vie.
Du contexte dans lequel vous étiez,
ouais, mais c'est même plus globalement la vie. Je crains que nous ne puissions pas réellement faire un bouquin mode d'emploi qui permettent une sorte d'autoroute quoi, pour un habitat participatif. Je crois vraiment que si on ne met pas le facteur humain au centre avec tout ce que ça induit, c'est-à-dire l'obligation effectivement de se remettre en question, de s'écouter, d'apprendre à sentir ce qui se passe réellement plutôt que ce qui se dit dans la tête, hein, c'est deux niveaux très très différents, eh bien je ne vois pas bien comment ça pourrait aboutir. Au premier virage, je pense qu'on se casse la figure, et comme il y a tout le temps des virages, on les prend en crissant une fois, deux fois, et puis hein, voilà, ça passera pas.
Et après, il faut apprendre à se relever et recommencer.
Alors moi, je dirais peut-être au niveau des architectes, du choix des architectes. Le problème, c'est qu'on avait choisi une femme architecte qui correspondait vraiment à nos valeurs. Il se trouve que quelqu'un qui a négocié avec cette femme s'est monté dur en affaires. Et cette femme a dit, je ne peux pas travailler dans ces conditions. Et on s'est retrouvé avec son associé, qui lui est plutôt un architecte urbain, et qui n'était pas dans l'écologie vraiment. Bon, mais les architectes, on en a vu d'état, on en avait choisi une autre, ça a changé, voilà. Peut-être qu'au niveau des architectes, mais
oui, mais je sais pas comment on aurait pu choisir sans avoir toute cette information, cette expérience. C'est très, très difficile. Oui. Il y a l'urgence, il y a le groupe qui décide ensemble aussi sur des critères très, très relatifs. Très éphémère, c'est pas du tout objectif, enfin, c'est très particulier de décider. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse réellement faire un mode d'emploi.
Non,
c'est le troisième ou quatrième architecte même qu'on avait, qu'on a choisi, parce qu'on en a choisi et on en a éliminé.
Alors maintenant, un petit clin d'œil vers l'avenir. Comment vous voyez Ecoravi dans les 3-4 ans qui viennent? Qu'est-ce que vous imaginez? D'abord, est-ce que vous imaginez Ecoravi dans 3-4 ans ou est-ce que vous laissez l'émergence produire ses fleurs? Comment vous vous projetez dans les années à venir?
Moi, je vois Ecoravi. Je vois Ecoravi. J'y suis avec une pointe d'émotion, d'ailleurs, qui me traverse, là, parce que je vois pas comment un tel projet aussi magnifique dans toutes ces ramifications, dans tous ces petits endroits, n'aurait pas sa place sur cette planète. Je pense vraiment que c'est juste de faire ce projet, qu'il est super bien pensé, très bien construit. On a beaucoup d'alliés, je trouve, partout. Là, tous ces hommes politiques, finalement, se sont tous mis, mais de gauche à droite, en faveur de notre projet. On est allé voir, parce qu'elle a parlé du ministre, mais on a été voir les conseils généraux, le conseil régional, le député, tout le monde, quelle que soit la couleur, c'était incroyable, tout le monde était favorable. Et donc, j'ai senti vraiment que ça pousse fort, quoi. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas l'argent pour. On n'a pas peut-être travaillé comme il faut l'argent. Peut-être que là, il faudrait regarder, je ne sais pas, avec des bailleurs sociaux ou être soi-même bailleur social, je ne sais pas. Ça, peut-être qu'on pourrait réfléchir, voilà, par rapport à ça, pour refaire un projet, pour faciliter les choses, parce qu'on dépense quand même beaucoup d'énergie pour que ce projet financièrement se fasse en ce moment. Après avoir beaucoup dépensé d'énergie pour fabriquer des locaux dont nous n'achèterons aucune calorie pour le chauffage, ni aucune calorie pour l'eau chaude.
Bâtiment positif, énergie positive,
voilà.
C'est ça.
Ouais. Et donc là, ça a été aussi un énorme travail au niveau de l'énergie. On a fait un tableau qui a été qualifié de remarquable par plein de gens pour comparer les différents modes de chauffage et aboutir à zéro chauffage. Mais il a fallu beaucoup, beaucoup s'investir et monter en compétence tous ceux qui avaient envie et le temps. Donc ce tableau est à disposition, d'ailleurs.
Un dernier mot pour nos auditeurs.
Oui.
Qu'est-ce que vous pourriez leur dire comme message, comme conseil, comme...
Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'Ecoravi, ça existe déjà. C'est-à-dire, on est déjà une communauté de gens qui sont venus s'installer sur Diolfi. Et quand quelqu'un a besoin d'une aide pour les enfants, il téléphone aux plus âgés. Quand une plus âgée a besoin de quelqu'un pour Internet ou pour un déménagement et tout ça, Ecoravi, ça existe déjà, un groupe humain qui avance avec le cœur ouvert et aussi ses fragilités. Donc, qu'est-ce que je dirais? Moi, je ne sais pas dire des messages. Allez de l'avant, allez-y,
c'est pas ça mal vaut comme le message. Coup,
c'est formidable. Avançons, rien n'est perdu de ce qui nous aide à grandir. Ni la bonté des arbres, ni le vin de la colère, ni la chance d'être ensemble.
Merci, merci à tous les deux et bon courage pour la suite de ce merveilleux projet. Ouais. Ciao.
Merci.
Merci Fred.